Indépendance, tcha-tcha, Tosoumiye. Okipwaza, tcha-tcha, Toubakini.
La Grenouille vous propose des lectures d'extraits de deux livres du célèbre journaliste polonais Kapuscinski. Eben, écrit en 1998, et Il n'y aura pas de paradis, écrit en 1978, initialement publié sous le titre La guerre du foot. Mort en 2007, Kapuscinski a parcouru l'Afrique en tant que reporter pendant la période des indépendances. De l'Afrique, l'Européen ne voit que l'enveloppe extérieure, une partie, peut-être la moins intéressante et la moins importante. Son regard glisse en surface, comme s'il doutait que toute chose recèle un secret, même en Afrique. La culture européenne ne nous a guère préparés à ces investigations dans les profondeurs d'autres univers, à la source de cultures différentes. Le drame de nos civilisations, et de l'Europe notamment, c'est que jadis, les premiers contacts avec l'Afrique ont été le privilège d'individus de la pire engeance. Voleurs, soldatesques, aventuriers, criminels, trafiquants d'esclaves, etc. Certes, il y a eu des exceptions. Des missionnaires honnêtes, des voyageurs passionnés, des chercheurs. Mais en général, le ton, la norme, le climat ont pendant des siècles été dictés par des canailles. Des brigands internationaux, peu soucieux de découvrir d'autres cultures, de communiquer avec elles, de les respecter. C'était pour la plupart des mercenaires obscurs, butés, rustres, insensibles, analphabètes. La seule chose qui les intéressait, c'était conquérir, piller et massacrer. Compte, au lieu de se connaître, se rapprocher et s'interpénétrer, les deux mondes sont devenus mutuellement hostiles, dans le meilleur des cas, indifférents. À part les scélérats dont j'ai parlé, les représentants des deux cultures évitaient les contacts, fuyaient, avaient peur. Cette monopolisation des relations interculturelles par une classe d'obscurantistes a institué des rapports exécrables. Les relations humaines ont été fixées d'après le critère le plus primitif. Celui de la couleur de peau. Le racisme est devenu une idéologie selon laquelle l'homme définissait sa place dans l'ordre mondial. D'un côté, les blancs, de l'autre, les noirs. Dans cette relation, la réticence était souvent réciproque. En 1894, l'anglais Lugard se rend à la tête d'une petite division au fin fond de l'Afrique occidentale pour s'emparer du royaume du Bornou. Souhaitant rencontrer son roi, il est accueilli par un émissaire qu'il informe que le souverain ne peut le recevoir. Tout en transmettant son message à Lugard, l'émissaire ne cesse de cracher dans un récipient en bambou accroché à son cou. Ces crachats le protègent et le purifient contre les séquelles que peuvent entraîner un contact avec un homme blanc. Le racisme, la haine de l'autre, le mépris et le désir d'extermination trouvent leurs racines dans les relations coloniales en Afrique. C'est là-bas que tout a été inventé et mis en pratique, bien des siècles avant que les systèmes totalitaires ne viennent greffer leurs expériences lugubres et honteuses sur l'Europe du XXe siècle. Autre conséquence de la monopolisation des contacts par cette classe d'obscurantistes, les langues européennes n'ont guère développé un lexique permettant de décrire de manière appropriée un univers autre que l'univers européen. Des pans entiers du monde africain ne peuvent être appréhendés, ni même effleurés, à cause de l'indigence de la langue. Comment décrire les entrailles sombres, vertes, étouffantes de la jungle? Ces centaines d'arbres et de buissons, comment s'appellent-ils? Je ne connais que les noms de palmiers, baobabs, euphorbes. Or, ces arbres ne poussent pas dans la jungle. Et ces arbres immenses, d'une hauteur de 10 étages sur les rives de l'Ubangi et de l'Ituri, comment s'appellent-ils? Comment baptiser ces divers insectes que l'on rencontre partout, qui nous assaillent et nous piquent sans cesse? Il arrive qu'on trouve un nom latin, mais que va-t-il évoquer à un lecteur moyen? Cela n'intéresse que les biologistes et les zoologistes. et l'immense domaine de la vie psychique, des croyances, de la mentalité de ces hommes. Chaque langue européenne est riche, mais sa richesse est au service de la description de sa propre culture. Elle est là pour représenter son propre monde. Quand elle veut aborder le terrain d'une autre culture et la décrire, elle dévoile ses limites, son immaturité, son désarroi sémantique. L'Afrique, ce sont des milliers de situations les plus diverses, les plus variées, les plus contradictoires. Quelqu'un vous dira « Il y a la guerre là-bas » et il aura raison. Un autre dira « Là-bas c'est calme » et il aura raison aussi. Car tout dépend du lieu et du temps. À l'époque précoloniale, il n'y a donc pas si longtemps, il existait en Afrique plus de 10 000 petits états, royaumes, unions ethniques, fédérations. Dans son livre « The African Experience », l'historien londonien Ronald Oliver met le doigt sur un paradoxe. Il est d'usage de dire que les colons européens ont réalisé le partage de l'Afrique. Le partage, s'étonne Oliver, cela a plutôt été une unification, menée brutalement par le fer et par le feu. De 2000, on est passé à 50. Toutefois, il reste encore beaucoup de cette diversité, de cette mosaïque, de ce tableau se métamorphosant à vue d'œil, de ce puzzle constitué de minuscules cailloux, cubes, coquillages, bûchettes, paillettes et feuilles. Plus nous le scrutons, plus nous constatons que ces pièces changent de place, de forme, de couleur, pour former un spectacle étourdissant par sa mobilité, sa richesse, ses vibrations colorées. Il y a quelques années, j'ai passé le réveillon de Noël au parc national de Mikumi, au fin fond de la Tanzanie. La soirée était chaude, calme, sans un brin de vent. Sur une clairière, en pleine brousse, à la belle étoile, Quelques tables étaient dressées avec des plats de poisson frit, de riz, de tomates, des bouteilles de pombe, la bière locale. Des bougies, des lampions, des lampes étaient allumées. Il régnait une atmosphère agréable, détendue. Comme toujours quand c'est la fête en Afrique, les récits, les plaisanteries, les rires fusaient. Il y avait là des ministres du gouvernement tanzanien, des ambassadeurs, des généraux, des chefs de clan. Minuit passa. Soudain, j'ai senti derrière les tables éclairées une masse obscure et impénétrable s'approcher, se balancer et résonner. Cela n'a pas duré longtemps. Le vacarme s'est soudain amplifié et dans notre dos, des profondeurs de la nuit, a émergé un éléphant. J'ignore si mon lecteur s'est jamais trouvé nez à nez avec un éléphant. Non pas dans un zoo ou dans un cirque, mais dans la brousse africaine. Dans le royaume de cet effroyable seigneur. À sa vue, l'homme est pris de panique. Quand il est séparé du troupeau, l'éléphant solitaire est souvent un fauve devenu fou furieux. Un prédateur déchaîné qui attaque les villages, piétine les cases, tue les hommes et le bétail. L'éléphant est vraiment un animal énorme. Il a un regard pénétrant, perçant, et il est silencieux. Nous ne savons pas ce qui se passe dans sa tête puissante, ce qu'il va faire dans la seconde qui va suivre. Il s'immobilisa un instant, puis se mit à passer entre les tables. Il régnait un silence de mort. Tout le monde restait assis, paralysé, pétrifié. Personne ne bougeait, car cela aurait pu déchaîner sa furie, et comme c'est un animal rapide, il aurait été impossible de lui échapper. D'un autre côté, en restant assis sans bouger, nous nous exposions à son attaque et risquions de périr écrasés par les pattes du colosse. Notre éléphant déambulait, contemplait les tables dressées, les gens à moitié morts de peur. D'après ses mouvements, le balancement de sa tête, on voyait qu'il hésitait, qu'il n'arrivait pas à prendre une décision. Cela n'en finissait plus, semblait durer une éternité. À un moment, je saisis son regard. Il nous fixait avec insistance, de ses yeux lugubres, figés. Enfin, après un dernier tour de piste, l'éléphant nous a laissés. Il est parti et s'est fondu dans les ténèbres. Quand le martèlement de ses pas s'est tu et que l'obscurité s'est immobilisée, l'un des Tanzaniens assis à côté de moi m'a demandé « Tu as vu ?»« Oui, » ai-je répondu, toujours à moitié mort de frayeur. « C'était un éléphant. »« Non, » a-t-il rétorqué. L'esprit de l'Afrique prend toujours la forme de l'éléphant. Car l'éléphant ne peut être vaincu par aucun animal, ni par le lion, ni par le buffle, ni par le serpent. Dans le silence, tout le monde a regagné sa case. Les garçons ont éteint les lumières sur les tables. Il faisait encore nuit, mais le moment le plus éblouissant en Afrique approchait, le point du jour. C'est un extrait de Ebène, un recueil de reportages écrit par le journaliste polonais Kapuściński.